c'est l'heure des enjeux internationaux. Et Xavier Martinet s'intéresse au Burundi sous tension.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
L'événement devait être le signal de la normalisation et de l'apaisement du pays, mais le sommet de la COMESA prévu hier à Bujumbura au Burundi a été discrètement reporté, voire évacué, tentative manquée, donc à un mois d'un référendum crucial pour l'avenir du pays. Bonjour Nestor Bidadanouré.
Bonjour.
Et merci d'être au téléphone avec nous, journaliste, intellectuel, militant anti-apartheid et auteur de « N'éteignez pas la lumière », un livre sur Nelson Mandela. Alors ce référendum, lui, c'était l'aboutissement ou c'est l'aboutissement de 2 ans de crise, il pourrait permettre au chef de l'État en place depuis 2005, Pierre Nkurunziza, de présider le pays jusqu'à 2034, mais l'opposition refuse. Les heurts politiques ont déjà tué plus de 1700 personnes, déplacé 400 000. Sous la pression internationale qui craignait un génocide, disait-on, le parti au pouvoir du président Nkurunziza a lissé son discours, il a entamé un dialogue avec l'opposition, mais les rapports des médias et des ONG montrent toujours un dialogue qui ne se poursuit qu'en pointillé, disons, et l'étouffement surtout de toute contestation. La crise est aussi économique et sanitaire. L'urgence de rétablir une vie économique a poussé les autorités burundaises à entamer un processus de réintégration économique, voire de normalisation politique régionale. Alors ce sommet de la COMESA, Nestor Bidadanouré, le marché commun des 19 États d'Afrique de l'Est et Austral, devait un peu entériner cette normalisation du Burundi. Il n'y en est rien, pas d'explication. Jusqu'où donc ce discours de normalité et puis l'attitude de la stratégie internationale normalisatrice, on va dire, de la communauté internationale peut-être payante. D'abord un mot sur ce sujet de la COMESA. C'était quand même un symbole très important, cette tenue à Bujumbura.
Oui, absolument. Le pouvoir de Nkurunziza attendait beaucoup de la présence des responsables politiques des États membres du COMESA. La conférence n'a pas lieu. C'est pas étonnant. Ce qui se passe au Burundi, en réalité, est en forte contradiction avec les principes même, notamment la charte sociale du COMESA, qui se fonde sur les principes de la bonne gouvernance et qui parle du développement durable, de l'équité dans le traitement des citoyens. Et comme vous le savez, rien de tout ça n'est se fait au Burundi. Nous sommes dans le contre-exemple absolu, justement, des principes énoncés par cette organisation.
Et justement, on voit que l'Assemblée nationale, hier, a autorisé les perquisitions sans mandat, les perquisitions de nuit. Ça signifie quoi dans l'ambiance politique du Burundi aujourd'hui ?
Ça signifie que, tout simplement que le pouvoir a officialisé des pratiques qu'il avait déjà. Il n'y a rien qui empêchait le pouvoir, les responsables de la police, des services de renseignement, d'entrer où ils veulent pour arrêter les personnes qu'ils veulent arrêter et justement de les faire disparaître. Il me semble qu'il est très important de rappeler que le Burundi aujourd'hui, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé dans l'introduction, a 1,5 million de réfugiés, près d'un demi-millier de réfugiés, qu'on a 200 000 déplacés intérieurs, plus de 2 000 morts depuis 3 ans, des enlèvements et disparitions permanentes depuis 2015 quand même, des lieux secrets de torture, comme l'a montré Amnesty International. Et aujourd'hui, nous avons encore 9000 jeunes qui sont emprisonnés dans des conditions vraiment infrahumaines et dont on reproche tout simplement d'avoir manifesté contre le troisième mandat anticonstitutionnel de Nkurunziza. Vous voyez, et à tout ça, il faut ajouter l'enquête quand même de la CPI sur les crimes contre l'humanité au Burundi.
Et alors, face à cela, justement, depuis, on pourrait dire, le mois de décembre, je crois qu'il y a 50 membres du principal parti d'opposition FNL qui ont été arrêtés, c'est ce que dénonce ce parti. Mais on voit que le pouvoir joue un jeu, disons, un peu ambigu, puisqu'il arrête certaines personnes, les relâche. C'est ce qui s'est passé avec 21 personnes d'un club de tennis de table, par exemple, à Bujumbura, qui avait été arrêté par les services secrets, puis relâché le lendemain, pas de charge contre eux, c'était vraiment un club de tennis de table. Qu'est-ce que ça signifie, ces événements ? Il y a une paranoïa ou alors réellement une tentative de contestation qui ne peut se faire qu'à travers des moyens cachés ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, le fond n'a pas changé, comme le montrent beaucoup d'organisations de défense des droits humains, et en fait les crimes continuent, mais on n'est plus dans la même forme, on va dire. Dans les années 2015-2016, voire 2017, le pouvoir assassinait des gens et après les jeter dans les rues, histoire de terroriser la population, de dissuader toute opposition. Actuellement, ce qui se passe, en fait, vu des pressions internationales, des enquêtes de la CPI, ce que font les autorités, ils enlèvent discrètement les opposants et puis les torturent, bien sûr, les exécutent. Mais parallèlement, la méthode consiste à faire semblant d'arrêter un certain nombre de personnes et comme ça tout le monde crie et après on relâche des personnes, ce qui donne l'impression, on va dire, de changement d'attitude, d'une certaine amélioration, on va dire, des pratiques. Mais en réalité, la plupart des fugitifs actuels, c'est-à-dire des gens qui ont été utilisés par le pouvoir pour arrêter, assassiner les gens et qui fuient, donnent beaucoup de témoignages qui montrent et les pratiques du pouvoir, les pratiques de torture, de crime, mais aussi c'est justement ces fugitifs qui sont protégés aujourd'hui, montrent en fait qu'en termes d'intensité, rien n'a absolument changé quant au nombre d'arrestations et de morts.
Et un des points peut-être clés en termes d'intensité, c'est la violence de ces Imbonerakure, donc les jeunes, on pourrait dire supplétifs et militants du parti au pouvoir CNDD-FDD. Tout récemment, il y a un gouverneur du sud du pays qui s'appelle Kwanziza aussi, qui a interdit, je cite, le sport de masse de nuit avec des gourdins. On voit bien ce que ça veut dire à travers le discours, encore une fois, de normalité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un degré de violence toujours très élevés, disons, dans les villes annexes hors de Bujumbura.
Oui, c'est-à-dire qu'à la veille des élections en préparation, il y a des discours parallèles des responsables politiques qui, justement, apparemment, donnent des consignes à ces jeunes en disant qu'il faut qu'ils fassent des rondes nocturnes, histoire de terroriser la population, et justement pour que la population aille voter pour Nkurunziza, mais aussi actuellement, le discours du pouvoir, c'est de dire, apparemment, le pouvoir s'attend à la deuxième génération de contestataires au sein même du parti au pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre de la situation actuelle au Burundi, c'est que personne n'est en paix. Personne n'est en paix. La situation économique, d'abord, elle est très, très, très difficile. Même des gens qui soutiennent Nkurunziza dans son parti, les caciques du pouvoir, se rendent compte qu'ils vont dans l'impasse, qu'ils risquent une insurrection dans le pays et de perdre le pouvoir, d'être jugés. Donc finalement, nous sommes dans la paranoïa du pouvoir, ce qui est normal, c'est dans l'ordre des choses.
Et alors, est-ce que c'est ce qui explique aussi la tendance à la personnification? Ça, c'est quelque chose de nouveau du pouvoir apparemment. Le président de Nkurunziza s'est fait nommer guide suprême. Enfin, c'est la traduction de Imboneza Yamao en Kirundi. Il s'est fait nommer guide suprême et il y a aussi une mesure d'évangélisation du parti avec un jour férié obligatoire le jeudi maintenant, sachant que Nkurunziza, lui, est un born again, justement, évangéliste.
Oui, absolument. C'est-à-dire que ce qui est étonnant au Burundi, il y a quelque chose d'assez surprenant, ce qui est en fait, la réalité dépasse de loin la fiction. Et parfois, d'ailleurs, plus c'est gros, plus on a du mal vraiment à le croire. Et à mon avis, les chercheurs et les amoureux des fictions apocalyptiques devraient s'intéresser vraiment au cas du Burundi. Et parce que, pour moi, au Burundi, il y a eu de fait prise du pouvoir par une secte religieuse extrémiste. Nous sommes pratiquement dans ça. Et le président dit qu'il a eu le message depuis très longtemps qu'il devait être le président du Burundi par Dieu. Et donc, quand on s'oppose au président, on s'oppose en quelque sorte à Dieu. Donc voilà, et s'opposer à lui, c'est s'opposer à la volonté de Dieu, en quelque sorte.
Et alors, qu'est-ce que...
Il communique quelque part des versets bibliques, vous voyez. Et voilà, on est dans ça. Il est toujours accompagné par la chorale Alléluia, qui à la fois fait ses louanges, mais en même temps organise ses matchs de foot. Voilà, on est dans ça, c'est incroyable, mais c'est vrai.
Et dans cette configuration plutôt crispée, là, on le comprend, à un mois du référendum, il y a, selon vous, aucune chance que ce scrutin puisse avoir, disons, un semblant de normalité et que il puisse y avoir une expression relativement libre des électeurs. Je crois qu'il y a 5 millions de personnes qui ont été enregistrées jusqu'ici sur les listes.
Oui, oui. En fait, d'abord, c'est un scrutin complètement illégal. Et deuxièmement, c'est un scrutin qui se déroule dans un pays qui est quadrillé par une milice parallèle qui tue et qui a pratiquement tout le pouvoir. Mmh. Une milice, d'ailleurs, qui a pris le pouvoir, y compris dans l'armée et la police, vous voyez. Donc, n'est pas aller voter, c'est s'exposer à la mort. Oui. Aujourd'hui, quand on est opposant, on n'est pas arrêté et mis en prison. On disparaît. Donc la population est totalement terrorisée. Et ce qui est étonnant pour moi, c'est vraiment finalement une espèce d'amnésie de la communauté internationale dans une situation qui pourtant a toutes les signes justement qui montrent qu'on est à la veille d'un crime de masse. Tout peut basculer à tout instant au Burundi.